pour dire aux lecteurs, quoi, mais regardez, en fait, vous trouvez que c'est naze l'art contemporain ou les moines, tout ce qui est... Mais non, mais regardez, en fait, c'est aussi du l'ancien, c'est aussi du... voilà, c'est aussi des... C'est le même problématique réinvestie, etc. Enfin, c'est, et donc, on est toujours, enfin, en tout cas, à la recherche, en train de discours, qui est à la fois un discours du spécifique, il ne s'agit pas de dire que tout est ce beau, que tout est dans le même, tout ça, mais qui, à la fois, qui montre qu'il y a du spécifique, mais que ce spécifique, il réinterroge, s'inscrit, etc., dans une histoire, voilà. Enfin, c'est un peu, mais c'est compliqué. Mais
c'est intéressant, il y a un autre artiste que vous connaissez peut-être, qui est Vincent Brocaire, qui, à la plume, fait des dessins qui sont extrêmement inspirés des cultures numériques. Et c'est intéressant parce que le numérique, au fil du temps, on peut considérer que ça a été... Les uns le considéraient comme outil, l'autre plus noble, comme matériau illimité. Je pense plutôt de ce côté-là. Mais c'est intéressant parce que finalement, cette querelle de outil ou médium disparaît complètement parce que, avec les cultures de l'Internet qui sont liées, les cultures du numérique qui sont liées à l'avènement d'Internet et au fait qu'elles sont à nous tous, cette question outil-médium disparaît puisque ça devient le sujet. Et en plus, ça devient le sujet avec des outils qui sont extrêmement classiques, comme le dessin à la plume ou la peinture. Et ça, je trouve, c'est intéressant. Et c'est, je pense que... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je est-ce que ce n'est pas un basculement qui s'est fait et qui rend le numérique possiblement sujet, tout simplement parce que les cultures du numérique sont à tous?
Non, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'en fait, on a basculé vraiment dans les années 90, c'était vraiment une culture de niche. Moi, je savais que quand j'écrivais des papiers, je ne savais même pas combien il y avait d'abonnés Internet, en fait. Il ne fallait pas trop y penser. C'est le truc inverse d'aujourd'hui. On sait exactement combien de personnes ont lu l'article. Mais avant, c'était... déjà, il fallait beaucoup de temps, trouver un truc, et puis quand on trouvait quelque chose, on était trop content. Et maintenant, c'est le truc inverse. Et en même temps, avec à l'esprit, quand même, cette chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en fait, tout ça disparaît, quoi. C'est-à-dire, moi, j'avais quand même conscience, en écrivant, que ça disparaissait pendant que j'écrivais, quoi. C'est-à-dire que, de là, j'ai commencé à revisiter un peu des papiers d'archives, juste par curiosité, en me disant, ben tiens, qu'est-ce qui reste de ça, en fait. J'écrivais quand même beaucoup sur l'art sur Internet, hein, je précise. Sur
pas les trucs, forcément,
les...
quand même.
Non, pas les articles, les œuvres.
Ah, pardon, excuse-moi.
Donc en fait, j'ai commencé à rechercher les liens quoi, de sites, d'artistes, d'œuvres dont j'avais parlé, ou qui m'avaient intéressé. Donc c'est, je pense que c'est 70%, ça mène dans le grand vide. Donc en fait, il y avait aussi cette chose qui était en fait, cette espèce de à la fois d'amnésie totale qu'on vit en ce moment et d'hypertrophie de l'archive. Et en fait, entre les deux, c'est un peu n'importe quoi. Mais parce que ce qui se passe, c'est que quand même, sur certaines œuvres, du coup, comme cette culture, personne ne l'a en réalité, c'est que les gens refont carrément la même chose, quoi.
Sans aucune conscience de le faire.
Et ça, c'est vraiment, mais c'est systématique. Et ça s'est accéléré ces derniers temps. Ça fait aussi qu'à un moment donné, on se dit, à quoi bon, en fait, avoir fait... C'est un peu incroyable, quoi. Ce truc de refaire comme ça à l'identique des choses qui avaient un intérêt. Quand elles ont été faites, parce que ça posait plein de questions et de limites et des matériaux qui étaient utilisables et pourquoi à ce moment-là, c'était un contexte précis. Et puis d'un coup, en fait, il y a des choses qui arrivent comme ça, genre j'ai créé, j'ai fait ça, j'ai fait ci, mais en réalité, il n'y a aucune mémoire de ces choses-là. Et je précise, c'est pas tellement l'art numérique au sens installation interactive, ça c'est autre chose pour moi. Tout l'art qu'il y avait sur le réseau.
Elle disparaît aussi, parce qu'on ne peut plus les montrer pour d'autres raisons. Mais ça, c'est intéressant parce que est-ce que ce n'est pas finalement une véritable spécificité, que ce soit journalisme, critique, de ces œuvres qui disparaissent très vite, qui fait que vous participez à les immortaliser. C'est-à-dire que ces œuvres qui vont disparaître, les artistes, quand ils le savent, ils peuvent les documenter par l'image, ils peuvent les documenter par ce qu'on appelle les instructions, de façon à ce qu'on puisse les redévelopper ou les réinstaller ou les mettre ailleurs, etc. Ça, c'est vachement important. Mais est-ce que finalement, les critiques, les journalistes ne participent pas grandement dans ce cas d'œuvres qui disparaissent beaucoup plus que dans le cas d'œuvres qui sont à Beaubourg et qui vont y rester pour longtemps, à la documentation, à la pérennité, il y a quantité d'œuvres où on ne les verra pas, mais on peut voir des articles.
un peu absurde aussi, en fait, parce que les articles eux-mêmes vont eux aussi disparaissent. Oui, mais ils disparaissent
pareil. Et les lecteurs aussi.
Et les lecteurs disparaissent. Non, mais je veux dire, cette instabilité, quand même, elle est au cœur de ce dont on parle aussi.
Est-ce que c'est pas la même chose avec l'art vidéo dont vous parliez?
Oui, il y a quand même un grand effort d'archivage, où les musées vont effectivement faire énormément de vidéos. C'est vrai que il y a deux questions. Il y a déjà vraiment les bandes vidéo d'origine, par exemple. J'ai une anecdote, en fait, c'est 65 Amazing Pack qui aurait filmé le pape en taxi à New York, c'est censé être la première bande vidéo. En fait, c'est un mensonge total, ça s'est jamais arrivé, mais ça, on le dit pas. Mais cela dit, ça leur arrange bien d'avoir pu dire, de toute façon, elle a disparu, il y a eu de la neige, enfin, pas voir. Bon, effectivement, les vieilles 65-67, on va pas avoir, on n'aura pas de traces. Il y a aussi, en termes de dispositifs, c'est vrai que les machines, elles marchent plus, alors il faut aussi essayer de préserver les machines, ça devient très compliqué de montrer les installations des années 70 telles quelles. Voilà, bon, mais ils préservent, ils collectionnent aussi du coup des tubes cathodiques, etc. Ouais. Mais il faut tout préserver, c'est-à-dire qu'il faut préserver la machine, la bande.
Et la collection du Centre Pompidou n'existe plus. Et pourtant, elle est là.
Pas vraiment. Bon, ils ont essayé de faire leurs archives là, dans le département des nouveaux médias, mais encore, c'est un formidable chose qu'ils peuvent. Quoi. Mais c'est vrai que moi, de plus en plus, je trouve qu'on voit par contre l'effort actuel maintenant qu'effectivement, une installation, peu importe, elle va être une raison de plus. Plusieurs façons, certainement. Mais pas que ça, elle va être documentée par la photographie, elle va être documentée par le descriptif technique, etc. Mais on garde tout ça parce qu'effectivement, il y aura un moment donné, c'est possible qu'on ne la revoie pas ou pas de la même manière.
Alors, en même temps, ce qui se passe aujourd'hui, je trouve intéressant, dans un monde de l'art où le marché a contrôle relativement, et où on voit aussi en période de crise une espèce de réémergence de l'objet. L'objet, oh, c'est beau, 100 000 dollars, je peux le prendre, je l'emmène chez moi. Dans les grandes foires, il y a beaucoup d'objets. Et on voit en même temps, c'est d'ailleurs aussi, on vit dans un monde aussi, on a connu le monde réel, analogique, on a vu se virtualiser avec plaisir. Aujourd'hui, on voit par exemple avec les imprimantes 3D, j'ai vu des objets aujourd'hui d'un artiste, c'est assez beau, pour l'espèce de désir de rematérialisation du monde. On apprend aussi que le cloud, c'est les serveurs, enfin, le monde est beaucoup plus matériel et on y revient à cette matérialisation. Et en même temps, dans le champ de l'art, il y a une tendance, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui peut-être disparaîtra très vite, à mon avis, elle est déjà peut-être morte dans l'offre, mais je trouve qu'elle est intéressante. Et celle qu'on qualifie de post-internet liée à une artiste qui est la première dans les années 2000, utilisait le terme de post-internet art, cette tendance soutenue par quelques galeries, comme la galerie Expo notamment, où on va exposer un des artistes avec Clément Malard dans le troisième volet. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance de l'art où, encore une fois, les œuvres sont nées sur la toile, sont nées sur internet, mais on les en a extraits. On les en a extraits pour en faire des objets souvent inertes qui témoignent de leur de là où elles ont été extirpées, mais où on n'a plus besoin de ces questions de documenter, de préserver, etc. Ça devient des objets. Qu'est-ce que vous pensez de vous de cette tendance, une tendance forte quand même sur le marché, peut-être plus d'ailleurs que plus qu'en festival, parce qu'on a des mondes qui préfèrent une cartographie sans différent. Qu'est-ce que vous pensez de vous de ce retour à l'objet? Que du mal. Ouais. Ah oui, mais tu peux. Alors pourquoi?
Non, mais parce qu'en fait, c'est un pur produit. C'est vraiment un pur produit de fabrication pour réintégrer le marché de l'art quand même. C'est ce qui était spécifique et vraiment intéressant quand l'art sur Internet a émergé, c'est que c'était tout un nouveau. Une nouvelle façon de faire qui arrivait avec, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de galeristes, c'est qu'on pouvait s'adresser directement à l'internet, c'est qu'il n'y avait plus d'argent qui était en jeu, c'est qu'en fait, il y avait quelque chose de très radical dans les positions qui étaient prises. Et par ailleurs, ces artistes-là faisaient déjà les mêmes qui faisaient du net art dans les années 95-97. Il faisait déjà des objets, je veux dire, que ce soit Alexei Chulgin, oui. que ce soit Chovitch, que ce soit. Ils ont aussi fabriqué des objets, mais c'était pas complètement calculé pour entrer dans le marché d'art. Là, ce qui est spectaculaire, c'est qu'effectivement, Parce que dans le lot, il y a des artistes qui sont vraiment intéressants, mais qui faisaient un autre genre d'art avant et qui c'est une de leurs façons de s'exprimer, on va dire. Mais dans le lot, il y a aussi des artistes qui ont fait juste déverser l'Internet dans le White Cube, ce qui est vraiment très limité, parce que certes, on a besoin de représentation, on a besoin de choses tangibles, mais disons que quand ça commence à être plus quasi que décoratif, ou entre quelque chose qu'on peut mettre dans de joli, qu'on peut mettre dans son salon, je veux dire, moi ça me parle plus du tout, ça m'intéresse pas du tout en fait comme proposition, parce que moi, comme dit, c'est pas vraiment l'art qui m'intéresse au sens marché de l'art, mais plutôt ce que ça raconte en fait à un moment donné sur une société. Et par ailleurs,
c'est vrai qu'en même temps il y a des œuvres qui peuvent raconter aussi la société, même avec leur part de matérialité.
C'est juste pour ça que, en fait, je voudrais pas non plus mettre tout le monde dans le même cercle, parce que Alexandra de Manoli, je trouve ça vraiment super intéressant ce qu'elle fait, mais elle fait pas que ça. Enfin, Abiva Gintnesh aussi. Il y en a plein en fait qui font des choses bien. Même Olivier Laric, en fait, son projet en fait d'impression 3D. C'est pas la question, oui, c'est pas forcément ça, c'est plutôt comme tu posais la question, comme tendance. Moi, je pense que c'est une tendance qui a été vraiment fabriquée, en fait, d'une certaine manière, et qui marche d'ailleurs.
En même temps, ils font partie de cette tendance, c'est-à-dire que Abiva Gintnesh, elle est vendue à New York, oui, dans la première vente aux enchères, dite art et numérique, quoi. C'est fait aussi pour ça. Et sa pièce, c'est notamment son lustre de webcam, elle est magnifique parce qu'elle part de notre société. C'est-à-dire, le lustre, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir, le lustre dans les châteaux. Et là, le pouvoir aujourd'hui, c'est le contrôle, c'est pareil. Elle fait un lustre de webcam.
Oui, elle travaille aussi avec les drones. Elle est assez engagée. Elle pose vraiment des questions sur un peu la tournure que ça prend. Mais je veux dire, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y a beaucoup d'œuvres par contre. Internet, c'est-à-dire on en trouve genre dans la triennale, je crois que c'était particulièrement spectaculaire en fait, donc le nombre d'œuvres qui sont vraiment juste, je prends genre des stock photos, enfin je prends des sortes d'esthétiques et qui sont un peu à la mode et que je fais prendre une forme un peu 3D, puis je mets un truc un peu exotique, enfin il y a quand même tout un langage hyper cliché déjà de ce type d'art.
Dans les grands événements d'art contemporain et qu'on viendra, etc., ces pratiques-là sont encore très, 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 très visibles. Hein.
Non, mais moi, je connais moins le monde de ces phénomènes de l'art, mais un phénomène qui est intéressant aussi dans le cas, comme ça permet un jeu de récupération par un nom de l'édition qui est pas mon difficulté. Enfin, c'est moins l'édition qui a bien justement les éditeurs que les libraires qui sont en difficulté, mais voilà, qui se posent des questions et qui essayent d'aller récupérer des formes de pratiques scripturales, pour ne pas dire littéraires, enfin, on va essayer de poser la question, qui sont propres justement au numérique. Et j'ai lu récemment que, par exemple, ce que vous disiez, c'est que 90% des auteurs, des jeunes auteurs qui sont aujourd'hui publiés en Chine, par l'édition livrée, enfin, chinoise, proviennent de pratiques numériques. Et alors, c'est intéressant parce que, mais par exemple, là, vous regardez le succès en ce moment là, de la youtubeuse, ou alors Anatode, qui fait quand même ses succès librairie de l'année, c'est Anatode. Bon, bah, c'est des pratiques qui sont récupérées par l'édition traditionnelle, enfin des livres qui ne sont pas bien, hein, mais qui proviennent de pratiques d'écriture qui sont en fait beaucoup plus intéressantes quand elles sont hors du livre, quand elles sont dans le livre. Parce que qu'est-ce que c'est ces pratiques? C'est des pratiques de fanfiction, par exemple, qui est un truc, je ne sais pas si vous allez regarder les fanfictions, c'est un phénomène complètement bizarre, quoi, de millions de gens qui écrivent comme ça des suites de livres, de films, ils intègrent des nouveaux personnages, il y a des genres, des sous-genres, les Marissous. Alors, les Marissous, c'est les filles qui se mettent en scène à l'intérieur d'une série déjà existante. Alors il y a une autre catégorie, je ne sais plus comment elle s'appelle, là où tous les personnages deviennent BD. Okay. Ça c'est bon, vraiment. Il y a des catégories, mais c'est vraiment très, très drôle, quoi. C'est que des trucs bizarroïdes comme ça. Bon, tout ça, ça donne une production. Mais par exemple, vous allez sur fanfiction.net, qui est une des principales plateformes de fanfiction, qui est très anglophone, mais aussi pas mal francophone. Et vous avez par exemple, je ne sais plus, 800 000 fanfictions écrites à partir de Harry Potter.
800 000 textes qui se répondent, c'est que des communautés, etc. Et donc de plus en plus de pratiques d'écriture collective. Et par exemple, si vous prenez Fifty Shades, le bouquin là, qui a fait aussi un énorme succès de librairie pour le coup, ouais, Fifty Shades au départ, qu'est-ce que c'est? C'est une femme, c'est une américaine qui s'ennuie, enfin, une américaine de 45 ans qui s'ennuie, voilà, et une fois qu'elle a foutu ses enfants à l'école, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur internet et elle écrit une fanfiction à partir de Twilight. Donc Twilight, c'est un récit de vampire, quoi. C'est une fille humaine qui aime un vampire, mais c'est compliqué, c'est sûr. Et donc du coup elle écrit un type de fanfiction à partir de Twilight, où elle déplace, je ne sais plus comment ça s'appelle, elle déplace le problème, et en fait ça devient une jeune fille qui tombe amoureuse d'un type qui a des pratiques sadiques. Voilà. Et donc elle transpose le truc, quoi. Mais les personnages ont le nom des personnages de Twilight, etc. Et puis elle écrit en ligne, et elle écrit des chapitres, etc., machin, puis, et les gens commencent à la lire, quoi. Ils trouvent ça génial, ils disent « Ah, mais devrait y se passer ça ?» C'est une écriture qui est à la fois un peu collective, qui épouse les contours du désir de son lectorat, qui grossit, et puis à un moment, ça franchit l'espace des fanfictions, et vous avez des éditeurs américains qui sont quand même plus malins que des éditeurs français, qui commencent à les regarder ce qui se passe là, et puis ils se disent « Ah ben là, il y a un énorme succès !» quoi. Et donc, là, paf, ils récupèrent le texte. Alors là, ça pose un problème, c'est qu'on ne peut plus prendre le nom des personnages de Twilight, donc on les renomme, et le lien avec le genre de départ disparaît complètement, ça veut dire que vous révisez Fifty Shades, il n'y a plus aucun rapport avec Twilight, hein. Et ça devient un succès de librairie tout à fait traditionnelle, etc. Et ça c'est intéressant. Je pense pas que ce soit l'équivalent de l'extraction d'un élément d'une œuvre sur Internet pour le mettre dans White Cube, mais il y a un côté comme ça. Et donc du coup, quand on lit Fifty Shades, le bouquin, c'est nul, quoi. Enfin, c'est pas complètement nul, mais c'est pas super, hein, disons. Et alors que tout le processus de la fabrication du truc, etc., est super intéressant. Et de plus en plus, on observe ça. Anatode, c'est un peu la même chose, hein, cette année.
Il y a d'ailleurs dans la communauté numérique des pièces qui ne sont intéressantes que dans le process. Et dont on se moque du résultat, c'est pour ça qu'on utilise le terme workshop autrement, ou autre chose. Puisque tu évoques la littérature, je voulais évoquer aussi la vidéo avec toi, Virène. Est-ce qu'il n'y a pas des similitudes entre ce qui s'est passé en art vidéo, c'est-à-dire, on va dire, que l'art vidéo naît globalement à la fin des années 60, et puis dans les années 90, il va être contextualisé dans des expositions d'art contemporain, et en 2000, on ne va pas dire aujourd'hui de Christian Marclay que c'est un artiste vidéaste, on va dire simplement que c'est un artiste contemporain. C'est-à-dire que la catégorie historique art vidéo a littéralement disparu au fur et à mesure que le médium vidéo a été accepté, intégré dans le monde et le marché moins, mais dans le marché aussi de l'art contemporain. Est-ce que tu penses qu'il est en train de se passer la même chose, justement, avec ce que tu évoquais tout à l'heure, avec une tendance qui serait peut-être en train de disparaître à l'image de l'art vidéo, l'art numérique?
Alors, je n'ai pas du tout la même compréhension qui s'est passée avec l'art vidéo. Pour moi, effectivement, l'art vidéo, c'était très proche en fait d'un mouvement. Ça aurait presque pu marcher avec un manifeste. Quand on parle de l'art vidéo pionnier, c'est construit sur on va réfléchir à ce que c'est l'image électronique, à la logique à l'époque. Et justement, le numérique a débarqué très progressivement à partir de la fin des années 90. Et à partir de ce moment-là, ça a brisé la différence déontologique qui était absolument essentielle tant qu'on voulait définir un art vidéo pionnier, qui en fait fonctionnait un peu comme un mouvement, les artistes restaient relativement proches. Ben, ça a changé parce qu'avec le numérique, la vidéo et le film, c'est à peu près la même chose. Parce qu'en fait, c'est venu, s'immerger. Mais avec ça, qui est arrivé depuis la fin des années 90, alors on est d'abord cette génération qu'on a pensé au début que c'était des artistes vidéo, qu'on a appelé le cinéma de cinéma, c'est la génération Pierre-Louis, Douglas Vernon, etc., qui sont mis avec la vidéo à regarder le cinéma. Avec la numérique qui est arrivée ensuite, finalement j'ai presque l'impression que c'est pas que la vidéo n'a pas disparu d'un contemporain, c'est un des médiums les plus courants qu'on voit en expo, c'est pas du tout ça. Mais je n'appelle pas ça l'art vidéo, j'ai beaucoup de mal quand je parle de vidéaste, après que j'ai mon magazine qui va retweeter derrière pour annoncer un article, éventuellement dire que j'ai par exemple couvert l'artiste vidéo chilien, je ne sais pas quoi. Enfin, moi ça me choque parce que c'est pas de l'art vidéo à mes yeux, parce que moi de l'art vidéo j'entends ça, je sais que c'est deux mots, mais pour moi j'entends ça comme si on parlait de l'impressionnisme, enfin c'est pas les mêmes, mais pour moi c'est un mouvement, même si effectivement les années 60, on commence un petit peu à plus tellement parler de mouvement, mais quand même, c'est à l'époque de Luminous René, ben, c'est quand même des artistes très proches. Ben, l'art vidéo pionnier, ils sont relativement très proches. On a quand même beaucoup qui sortent de la musique électronique et tous ont réfléchi l'image qui était analogique. Donc je pense qu'effectivement, le numérique a juste précipité le fait qu'on a que cette différence qui était essentielle, en tout cas dans les années 60 et 70, entre le film et la vidéo, et du coup entre la télévision et le cinéma, tout ça, ça a mergé ensemble. Donc qui fait qu'effectivement, je pense que, à ce qu'il est mort, j'en sais rien, je pense qu'il y a effectivement des artistes qui réfléchissent à l'image numérique et l'image vidéo, donc c'est pas mort à mes yeux. Mais par contre, c'est juste que l'art vidéo, c'est un moment passé à mes yeux. C'est plus comme ça que je le vois.
De toute façon, ce qui va se passer pour, par exemple, puisque le post-internet, pour moi, c'est du pop art. Ça n'a rien à voir avec l'internet. C'est vraiment du pop art, c'est pur. Enfin, tu vois, ce qui est vachement plus en lien avec, avec ce mouvement-là qu'avec le net art, ça n'a rien à voir. Mm-hmm. Alors que c'est juste parce que l'internet est devenu notre culture commune, populaire. Voilà. Et en fait, on est vraiment passé. Voilà, donc le post-internet, pour moi, c'est du pop. Il y a d'autres œuvres qui sont plus qui sont restées plus proches du médium, à questionner le médium. Parce que c'est quand même difficile de penser en fait, il n'y a pas de différence entre. Ou pas de différence, c'est-à-dire de comparer en fait la vidéo avec l'art numérique. Parce qu'en fait, dans l'art numérique, il y a trop de choses. En fait. Déjà, il y a tout l'art de réseau, quoi. Et le réseau, en fait, ça n'existait pas avant, quoi. Donc en fait, c'est difficile de penser qu'il n'y a vraiment pas de rupture, en fait, en tout cas dans ces formes-là, c'est sûr que si, quoi. Et en fait, c'est des œuvres qui sont contextuelles, qui sont problématiques, parce qu'en plus, elles sont créées à un moment donné où le contexte est comme ça, dans les années 90, et elles n'ont pas de sens. Dans les années 2015, elles correspondaient au contexte internet de l'époque. Ça veut dire que pour remontrer par exemple ces œuvres, il faudrait imaginer quelque chose qui permette de régénérer, pour certaines d'entre elles en tout cas, un contexte internet d'époque, parce qu'en réalité elles sont très liées justement à
par exemple, les vitesses de chargement, etc., la qualité des écrans.
C'est ce qu'a voulu faire.
Même au nombre de gens qui consultent, aux outils que tu utilises, à des tonnes de choses. Alors, il y a des artistes d'ailleurs, c'est marrant parce que. Donc là, moi, en ce moment, je travaille plus en archéologie des médias, qui est une autre approche, en fait, pour réfléchir à ces pratiques-là. Je ne peux pas vous résumer, en fait, parce que dans le monde de l'archéologie des médias, il y a plein de méthodologies différentes dont certaines se contredisent. Donc je pense qu'il faudrait une heure pour vraiment faire le tour. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que ça permet en fait d'essayer d'aborder cette histoire-là du numérique d'une manière sur un temps beaucoup plus long, quoi, pour essayer de voir les topoi, en fait, les cycles qui existent au 19e, qu'on retrouve au début du 20e, qu'on retrouve sous une certaine forme dans l'art des réseaux, etc. Bon, ça c'est une chose. Et donc ces pratiques d'archéologie, elles s'intéressent aussi à la préservation. Et une des questions qui se posent, par exemple, pour les artistes qui travaillent avec ces outils, c'est qu'ils ont plusieurs choix. Soit de dire, ma pièce, elle est telle qu'elle, j'y touche plus, je la laisse mourir. Quand il n'y aura plus les outils, tant pis, il n'y aura plus que la documentation. Ça, c'est, j'ai laissé mourir l'œuvre. Ensuite, il y a une autre forme qui est mon œuvre, elle fait toujours sens aujourd'hui. Alors, je change de plateforme, je la recode, je la change en fait de complètement et de contexte et d'outils, etc. Parce qu'en fait, c'est pas tellement le contexte qui est important, c'est l'œuvre. Enfin, c'est le rendu, l'esthétique, etc. Donc en fait, même pour chaque œuvre dans le numérique, il y a des stratégies de conservation qui sont totalement différentes. C'est pour ça que c'est un peu difficile de. En fait, c'est une étiquette qui est très difficile à tenir. C'est quoi le rapport entre des artistes comme RYBN qui codent un automate de trading et qui font ce qu'ils appellent une performance dans les marchés financiers? Donc ils ont codé avec leur petite main en open source un logiciel qui va boursicoter, faire de l'achat-vente sur les marchés jusqu'à sa banqueroute finale, quoi. Et en fait, il s'avère que d'ailleurs, ça pourrait les enrichir.
Voilà.
Il semblerait qu'en ce moment, il a.
C'est une œuvre que j'adore qui s'appelle ADM 8, que vous pouvez consulter sur Twitter. Et comme c'est open source, d'ailleurs, on pourrait même leur demander le code et nous-mêmes boursicoter. Et en fait, l'œuvre achète et vend. Et l'idée de départ, c'était d'observer sa banqueroute lente. Et en réalité, aujourd'hui, le message, quand on arrive sur la page, c'est durée de vie illimitée.
Ouais,
il est en durée de vie illimitée. Voilà. Alors ça, c'est une pièce moi, que j'aime beaucoup. Et c'est intéressant parce que toi qui connais bien ce contexte, on va dire, qui est beaucoup lié aussi au festival, de ces artistes qui souvent sont engagés, et qui, que ce soit à Berlin, que ce soit ailleurs, où tu vas régulièrement, ou en France, peu importe, toutes les problématiques sociétales sont traitées, c'est-à-dire évidemment la surveillance, c'est-à-dire le climat, c'est-à-dire toutes, elles sont toutes traitées. Donc j'ai envie de dire, finalement, c'était une évidence qu'avec le numérique, on a la meilleure entrée sociétale. Pensons à Rue 89.
Oui, mais alors le problème, c'est qu'il faut, c'est un peu comme la crise, c'est qu'il faut trouver les nouveaux outils, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer à ça le même regard, ou en tout cas il faut simplement, ben, disons, journalistiquement, on est obligé de trouver des formes qui sont plus... Je pense à un truc qui, nous, journalistiquement, est très compliqué quand on fait du journalisme sur Internet, qui est une espèce de concurrence qu'on vit de manière continuelle avec la conversation qui a lieu sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est-à-dire que nous, on doit faire avec cette espèce de conversation. C'est-à-dire que traditionnellement, il y a un rapport toujours compliqué du rapport entre l'information produite par la presse et puis la conversation. Hein, le but d'un article, c'est de devenir un sujet de conversation. Que les gens en parlent. Et puis ces mondes-là, ils ont toujours été, alors soit ils étaient très distants, puis après ils se sont un peu rapprochés avec par exemple la radio, qui avait même reproduisé des formes conversationnelles, enfin voilà ça. Et puis là, on a un problème, nous, c'est qu'on est sur le même écran, quoi. On est le même écran, et on est plus que sur le même écran, on est sur les mêmes plateformes. C'est-à-dire qu'on est sur Twitter, ce Twitter, par exemple, sur Facebook, se mêle des sujets de conversation, de tout type de conversation, dont notre truc à nous, quoi, nos articles. Bon. Alors sur Twitter, ils sont pas encore... c'est des liens, bon, ça différencie un peu. Sur Facebook, par exemple, Facebook, récemment, a proposé d'accueillir des articles de presse. Facebook pourrait, plusieurs grands journaux qui ont passé des accords avec Facebook, et maintenant il y a des articles de presse entiers qui sont comme des posts Facebook. Alors, vous voyez, c'est tout à coup, il y a le même truc, c'est quelqu'un qui raconte ses vacances et un article. Ah, il se diffuse de la même manière. Et il emprunte les mêmes canaux de diffusion, les mêmes techniques de partage, etc. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on fait, non, mais, justement, pour dire, comment on traite ça, par exemple?
Et puis, une question que je me suis posée, c'est, j'ai pas regardé, excuse-moi, mais le fait qu'il y ait cet axe décidé récemment, avec notamment ton arrivée, ça n'est pas stipulé en baseline, c'est pas stipulé.
Parce que l'idée, c'est de continuer à faire, c'est là où ça rejoint ce que tu dis, c'est de continuer à faire, à s'intéresser à la politique, à l'économie, à l'art, tout ce qui nous intéresse dans la vie, mais le faire avec ce spectre.
Et ma question, c'est pourquoi ne pas le dire d'une manière ou d'une autre?
On l'a dit, mais effectivement, il faudrait faire un baseline sur le site. Bon, en fait, c'est compliqué parce que c'est l'Obs qui nous...
Hein,
parce
que oui, en même temps, c'est peut-être pas intéressant de le dire.
Mon idée, c'est de pas le dire. Mon idée, c'est de pas le dire pour que les gens ne se rendent même pas compte. Après, dans un premier... Là, par exemple, il y a un truc qui est intéressant, c'est que là, ça fait depuis 6 mois qu'on fait ça, et on a, je pense, utilisé 200 fois le mot Facebook, Twitter, machin, dans nos titres. Parce qu'on estimait qu'il fallait qu'on dise à chaque fois que la chose se passait sur Twitter, sur Facebook, etc. Et là, j'entame de manière discrète, et pour ne pas dire silencieuse, un travail de ça qui est d'éliminer totalement les noms des plateformes, des titres. Pour qu'on ne dise pas « sur Facebook, Bidule fait ça ». Non, on dit « Bidule fait ça ». Parce qu'on ne dit pas, dans la rue, quelqu'un s'est engueulé. Non, quelqu'un s'est engueulé. Voilà. Donc c'est tout à coup, c'est effacer la plateforme pour mieux interroger ce qui s'y passe. Enfin, c'est un peu... Parce que tout ça, ça nous oblige... C'est des questions qui sont super intéressantes. Par exemple, comment journalistiquement on traite cette conversation qui a lieu dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui, parmi ce qui se passe dans les réseaux sociaux, est une information? C'est vachement compliqué, parce que tout le monde crache sur le buzz en disant ouais, nanana. Alors tout le monde se met à parler de la couleur de la robe. Là, vous savez, il y a eu ce débat là. C'est un truc à circuler à manière dingue dans le web du monde entier sur une robe qui avait des couleurs différentes. Toutes les personnes étaient d'accord sur la couleur de la robe. Ça fait le buzz pendant un week-end entier. Tout le monde, le monde entier, quoi. Tout le monde se partageait ce truc, etc. Machin. Est-ce que c'est une information? C'est à partir de quand, nous, journalistiquement, on doit dire, et comment on doit le dire? Est-ce que le problème, c'est la couleur de la robe? Ou est-ce que le problème, c'est pourquoi tout le monde se met à parler de la couleur de la robe? Bon. Mais en même temps, là, donc la question, c'est...
Et en même temps, on pourrait aussi ne pas en parler.
Ça, nous, on en a parlé.
Voilà, ça pourrait être un choix quand même.
Mais c'est un stigmate. Mais nous, on n'en a pas parlé. Oui. On est super fiers de ne pas avoir parlé de la couleur de la robe. En même temps, quand on a vu les scores des articles sur la couleur de la robe, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout le monde parle de ça, et que c'est absolument pas honteux, le fait de parler de ce dont les gens parlent. Enfin, je veux dire, c'est hyper important, c'est normal de pouvoir être dans la conversation, de pouvoir participer à la conversation. Et donc nous, et simplement la conversation avant, c'était un truc... Ah, et maintenant la conversation elle s'affiche là, tout le temps. Bon.
C'est très compliqué de suivre ces conversations, c'est-à-dire que par ailleurs il y a effectivement d'autres thèmes à traiter qui du coup disparaissent parce qu'ils font pas le buzz. Quoi. Il y a quand même quelque chose de super compliqué dans ce rythme conversationnel. Quoi. Enfin, ils vous ont pas encore appelé au monde pour vous dire de faire. La robe bleue.
Non, mais eux l'ont fait.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils l'ont fait, quoi. Donc, en fait, il y a... Et c'est vrai pour tous les types de presse.
Il y a une question que j'aimerais vous poser un peu, quand j'entends tout ce qu'on en dit depuis ce matin, tout à l'heure, c'est... Pour vous, qu'est-ce que l'art?
C'est hyper long.
Pas du tout. Non, au contraire. Parce que à chaque instant de votre conversation, on a des petites pensées, on ne va pas s'amuser à répliquer à chaque instant, mais ça rebondit sur des tas de trucs qui sont des questionnements. Hein. Et entre autres, ce questionnement-là qui me taraude, moi, c'est qu'est-ce que l'art, finalement, dans cette société qui est en révolution totale, qui est en progrès, on est un peu perdu. Et en même temps, on s'accroche à quelque chose que l'on veut, parce qu'on a une culture et qu'on a une éducation qui nous amène à comprendre, plus ou moins. Mais justement, on a envie de se dire l'art est partout, ou l'art n'est pas nulle part.
On a fait un peu son fonds de commerce.
Le robot, c'est pareil. Le robot, on crée un robot qui va se mettre à psychoter comme un robot de banque. Mais simplement, il est créé avec une intention particulière qui est celle de montrer qu'on peut créer. C'est de l'art. Bon. Mais c'est très ancien. Enfin, ça a une histoire, ça. Le fait de faire quelque chose qui perturbe vaguement ou qui montre, parce qu'il est recréé avec une intention artistique, que c'est.
Oui, mais c'est de l'art, mais on n'est pas tous à le penser, ça. Attention.
Non, c'est encore une fois, on parle du champ, mais c'est aussi la question du concret. C'est-à-dire, moi, ça, je l'ai vu au ZKM, c'est un musée, ça participe à nous convaincre. Je veux juste dire, en profiter, il y a Annie Agopian qui est là, tu prends la parole, Annie, quand tu veux, qui dirige et le centre culturel et le centre d'art, et que je remercie encore. Et puis, je veux juste dire aussi qu'il y a Caroline Deletras qui a eu une pièce qui est ici, qui vous pouvez aussi, que vous pouvez aussi harceler, et Bertrand Plaine qui sera bientôt exposé avec une œuvre dont je ne parlerai pas maintenant. S'il y a des questions, j'ai regardé le temps, mais pas parce que je m'ennuie, c'est juste...
C'est énorme.
Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, peut-être avant de conclure? Moi, j'en avais 12 des questions, je n'avais pas posé une. Je ne vais pas les commencer maintenant.
Moi, juste un tout petit truc. Du coup, avant que vous interrompiez, on a levé la main quasiment en même temps. Non, mais au contraire. Ouais. Mais dans ce que vous disiez, Xavier, sur la fin, j'avais l'impression qu'il y avait une... Je pense pas, hein, donc du coup, je pense pas que vous le pensiez, mais bref, que vous reveniez là-dessus, qu'il y avait dans la pratique une forme de confusion entre journalisme et conversation.
Ah non, je dis pas qu'il y a une
forme. Alors, je pense pas, mais du coup, j'aimerais que...
Non, c'est pas
une... Ou qu'on l'assume, ou que, en fait...
Non, c'est que je pense que le vieux rapport compliqué entre la presse et la conversation est reconfiguré aujourd'hui parce que ces plateformes montrent une concurrence. La concurrence est visible graphiquement, quasiment. Et puis, par ailleurs, il y a aussi un autre truc industriel. qui est qu'on voit apparaître, alors ça c'est pour nous c'est très compliqué aussi, c'est-à-dire que vous avez plein de sites qui sont créés uniquement sur leur art de faire de leur production des sujets de conversation numérique. Je pense à des trucs comme BuzzFeed ou des motivateurs, etc. Ça, c'est des sites qui sont créés pour attirer du public chez eux pour la pub. Bon, le modèle, c'est à peu près ça. Et donc, du coup, ils créent des articles qui s'appellent genre « Les 25 manières pour une meuf de retenir son mec » ou « Vous avez vu ce chat, il est absolument hallucinant », etc. Donc, ils créent des trucs avec des titres. Voilà, bon, et ils les balancent sur les réseaux sociaux. Et ça marche super bien parce que même nous qui avons des prétentions intellectuelles, quand on voit des trucs,
vous n'en croirez pas vos yeux.
Voilà, on clique parce qu'on est, parce qu'on est bête. Bon, voilà, on clique, on regarde. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils auraient pu, ces gens-là, continuer à faire ça. Sauf que, de plus en plus, qu'est-ce qu'ils font hein? Et maintenant, ils veulent faire de l'info. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils embauchent des journalistes, ils les piquent, et parce qu'ils les payent plus cher parce que c'est des Américains. Et donc, ils les font venir dans leur truc et ils font de l'info. Alors, et ils vont utiliser tout le savoir qu'ils ont accumulé en termes de partage, de titrage, de format, de machin, etc. Ils vont l'utiliser pour faire de l'info. Et alors ça, pour nous, c'est tout à coup, c'est des gens, au lieu de... C'est pas des gens qui font de l'info et qui se demandent comment la faire entrer dans la conversation. C'est des gens qui maîtrisent hyper bien la conversation et qui vont faire entrer des infos dedans. Et alors là, c'est super compliqué. C'est là où ça se reconfigure, le rapport. Mais je dis pas qu'après, évidemment, le problème, on fait de l'info.
C'est une information de qualité.
Ben non.
C'est le problème, c'est comme Facebook qui passe des marchés avec des...
C'est pas vrai, si vous titrez votre truc, c'est-à-dire, vous regardez le titre. Sur un journal, vous êtes comme une idée, vous êtes captif. Ouais. Ah, donc, regardez le titre, vous pouvez vous utiliser l'article en fonction du titre ou pas, mais bon, ben voilà. Mais sur Internet, vous titrez mal, mais votre papier,
il n'existe pas. D'ailleurs, en fait, mais en même temps, ça raconte un autre truc, c'est que en fait, il y a une sorte d'interview avec Antoinette Roy et vraiment à lire absolument sur cette question-là, c'est qu'en fait, on accepte en fait de se formater pour pouvoir être référencé par la machine. Donc à un moment donné, j'avais vraiment développé une haine pour les titres à jeux de mots, par exemple, de eBay, quoi. Et finalement, en fait, j'ai complètement changé d'avis. J'ai complètement changé d'avis, parce que je me suis dit, mais en fait, ça, c'est carrément maintenant devenu quasi une stratégie de résistance, c'est-à-dire un jeu de mots, l'algorithme, il capte pas que dalle, quoi. Il comprend pas, quoi. Et donc, du coup, certes, c'est pas bon pour le business, je veux dire, c'est pas référencé, etc. Mais quand même, je me dis, en fait, où se situe une sorte de résistance, cette espèce de matraquage, cette espèce de conformisme qui induit, en fait, par les algorithmes et par ces plateformes, qu'il faudrait avoir quand même le courage de questionner à un moment donné.
Ils ont fait comme démontre la nouvelle formule depuis lundi, c'est qu'ils ont inventé le titre graphiquement illisible.
Ouais. C'est pas une invention, je crois. Dans les différentes formules de l'idée, il y a plusieurs fois eu des titres illisibles. On a même eu le truc loop, tu vois, où c'était un peu tellement grand qu'il restait trois lignes pour écrire un article. Donc, c'est récurrent.
Non, mais c'est vachement intéressant, ces trucs-là, parce que c'est des exemples de reconfiguration. Là on a quitté un peu le champ strictement de l'art, mais qui oblige à se demander comment on fait ça, quoi.
Et je trouve ça important justement qu'il y ait des artistes encore qui essayent de ne pas entrer dans ce conformisme et de questionner en fait précisément ça, quoi. Ce dont qu'on ne voit pas, dont on ne se rend pas compte et qui modifie de manière vraiment invisible la manière dont on se comporte, la manière dont on regarde l'information, l'information qu'on reçoit et tout ça. Et moi je pense qu'il n'y a que des artistes qui font du boulot en ce moment, plus de temps en temps des articles de fond, des grands entretiens. Et
mais souvent d'ailleurs les articles de fond, on pourrait les accompagner d'une œuvre.
Ah ben, systématiquement.
Enfin, très souvent, on s'aperçoit qu'il y a des artistes qui ont fait par exemple autour de la question de la personnalisation de l'information qui nous arrive. Par exemple, le fait que vos recherches sur Google, en fait, elles sont très... C'est pas du tout ce que c'était Google au départ, c'est-à-dire un truc qui vous donnait l'information classée selon le mode des revues scientifiques. C'est plus tout ça Google. Google, l'algorithme de base, il a été pondéré par 200 autres algorithmes qui, en fonction de votre localisation, de vos recherches précédentes, etc., ce qui fait que Google vous donne l'info de proximité, quoi, selon le... C'est ça le but. Google va vers le fait de vous apporter l'info dont vous avez besoin et pas l'info classée.
Qu'on connaît déjà.
Et ça, par exemple, les artistes travaillent hyper bien. Enfin, j'ai plus de nom en mémoire, mais de gens comme ça qui travaillent pour vous montrer que cette info que Google vous donne, c'est pas du tout l'info universelle, quoi. C'est la petite info là. Et c'est vachement intéressant, ça nous interroge profondément. Parce qu'en fait, on a envie de dire, il y a tout un discours qui se développe autour du fait que justement l'info elle est trop personnalisée. Alors tout le monde, ouais, on aimerait à nouveau le retour de la sérendipité, comme il y avait dans le web avant, où on tombait sur des trucs incroyables, parce que quand on tapait un truc sur Google, ça vous emmenait au Japon, c'était génial. Tout. Ok, sauf qu'aujourd'hui, vous voulez taper, je sais pas, vous voulez aller chez H&M ou chez APC si vous êtes riche, si vous tapez APC sur Google, vous voulez pas avoir le magasin APC à New York, hein, vous voulez avoir le magasin APC pas loin de chez vous. Donc c'est quand même vachement plus pratique si Google tient compte de la localisation de votre ordinateur, vous donne le magasin APC pas loin de chez vous. Quoi. Voilà. Donc en fait, on est tous saisis, tous pris.
Il y a deux pas de mesure là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, je sais pas, on dit toujours Google, c'est vrai qu'il y a des... Il y a une possibilité de dégooglisation de l'Internet, et il y a des tentatives assez intéressantes là-dessus, mais il y a aussi d'autres moteurs de recherche qui fonctionnent super bien, je pense à, puisqu'on dit Google, je dis DuckDuckGo, par exemple, ou même d'autres, qui du coup utilisent la géolocalisation, parce qu'effectivement, bah, moi je ne vais pas chez APC, mais si je vais dans un magasin et je préfère qu'il soit à Paris, à ce moment-là, ça marche quand même. Pour autant, je ne retrouverai pas toujours ce magasin à chaque recherche...
Vous pouvez faire 20 000 papiers en expliquant aux gens qu'il faut arrêter d'aller sur Google et aller sur DuckDuckGo. Parce que 98% des recherches en France sont
faites. Oui, bien sûr.
Donc il faut faire la critique de Google.
Oui, Google FR, Google US, Google UK pour avoir des informations de fin, parce que j'ai commencé en anglais. Et du coup, c'est intéressant, parce que tout le monde n'a pas le même. De toute façon, là, c'est comme si, en fait, chacun. Les journaux qui sortaient, ce serait pas le même. Enfin, tout le monde dirait un autre journal, quoi, selon un session d'intérêt, ce qui est quand même problématique aussi d'une certaine manière sur l'aspect collectif.
Moi, je voulais poser une dernière question. Je ne sais pas si c'est justifié, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai tendance à faire une sorte de lien, peut-être un peu bête, ou alors très personnel, entre art et quand je parle de numérique, du coup, quelque part, vous parliez d'engagement ou de société tout à l'heure, avec l'activisme, on l'a évoqué rapidement, et avec ce truc qu'on appellerait art-activisme ou activisme, vous pourriez nous en...
Ça, par contre, je pense que ça prendrait des heures parce que Marie, justement, parlait en deux minutes. Très bien le domaine de ce qu'on a appelé hier.
Ou autour d'une bière après, je sais pas.
Mais qu'est-ce que je peux en dire?
Peut-être alors en lien avec ce qu'on s'est déjà dit. Alors,
ça sera en conclusion.
Disons qu'en fait, moi je rejoins. En fait, je trouve que cette catégorie d'artistes, moi en tant que journaliste, je répète, hein, pas en tant que critique d'art, mais en tant que journaliste, c'est une des catégories qui m'intéresse parce qu'elle me permet exactement ce qu'essaie de faire Xavier en 89, d'adresser en fait les sujets de société à travers l'art. Et en fait, c'est un peu ça donc, qui m'a toujours plu dans ses travaux, parce qu'elle me questionne, parce que alors, c'est indépendamment de l'aspect esthétique, parce qu'il y a aussi des très belles œuvres dans le lot, hein, et vraiment qui sont aussi des qualités esthétiques. Mais disons que moi, ce qui m'intéressait toujours, c'est en fait comment, en fait, par là, on arrive à poser en fait, des questions de manière très directe, c'est plus intéressant la manière dont ils posent des questions, dire que faire un papier sur les technologies ou sur l'innovation ou sur la biologie de synthèse ou sur la politique, parce qu'en fait ils parlent de tout ça dans ce qu'ils font. En fait.
En tout cas, on a été de l'art à la société, c'était un peu l'objectif. J'en suis ravi, je suis obligé de nous interrompre parce qu'on a bien compris qu'on pourrait continuer à parler de ça pendant.
Des matinées.
Moi, je propose de conclure, peut-être qu'il reste encore un petit peu de bière fraîche. Hein. Et en tout cas, moi, je vous remercie. Un grand merci à vous de m'avoir dit oui tout de suite, d'être venu avec un jour en chaleur.